Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 6 décembre 2018. Acquittement de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère au Rwanda. Le Burundi enjoint le Bureau des droits de l'homme de l'ONU de quitter le pays. 8 ans de prison contre l'ex-rebelle tchadien Babalade. Les bailleurs du G5 à Nouakchott promettent 2,4 milliards d'euros pour le financement des projets de développement. 2 hauts gradés et 5 soldats tués dans une attaque des Chebabs en Somalie. Et George Bush, père, a été inhumé au Texas aux côtés de son épouse Barbara et de leur fille morte en bas âge. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. L'opposante rwandaise Diane Rwigara a été acquittée par un tribunal de Kigali. Et voici sa réaction.
Non, je ne savais pas quoi attendre. Donc je suis surprise, agréablement surprise. Et je suis très contente, très satisfaite de la décision de la Cour.
C'est quoi la suite ?
La suite, je continue ce que j'avais commencé. Je continue la politique. Ouais.
Diane Rwigara était accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents. Ces charges lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'un an. Nani Talani nous en dit plus.
Selon la haute cour de Kigali, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. Les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement, notamment lors des conférences de presse, ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garanti par la constitution rwandaise et les lois internationales. Les 3 juges ont également estimé que l'accusation n'avait pas prouvé que Madame Rwigara avait falsifié des signatures dans son dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à l'élection présidentielle de 2017. Cette accusation avait valu le rejet de la candidature de la jeune femme. Les 5 co-accusés de Madame Rwigara, dont sa mère Adeline, ont également été acquittés. L'accusation avait requis 22 ans de prison contre Diane Rwigara et sa mère. Sa sœur, Anne Rwigara, avait déjà recouvré la liberté et les charges contre elle ont été abandonnées.
Le gouvernement burundais a ordonné la fermeture du bureau à Bujumbura du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, avec lequel il avait déjà suspendu toute collaboration depuis 2016. Le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Une note verbale qui demande la fermeture a été remise mercredi au coordinateur résident de l'ONU au Burundi pour transmission à Genève à la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Dans cette note, tout le personnel international, au total 4 personnes à Bujumbura, doit immédiatement être redéployé et l'office devra impérativement fermer dans 2 mois. Ce jeudi, bureau de l'office dans la commune de Mukaza, plusieurs travailleurs étaient en train de faire la valise. L'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies avait demandé dernièrement aux ONG gouvernements étrangers de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Depuis 2016, l'Office du Bureau des droits de l'homme travaillait au ralenti. Le gouvernement l'accusait de complicité dans tous les rapports produits par les Nations Unies qui font état de graves violations des droits de l'homme au Burundi. En octobre 2016, le Burundi était devenu le premier pays à se retirer de la CPI qui a depuis ouvert une enquête sur la situation au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Tchad, après 4 ans de détention préventive, l'ex-chef de guerre Mahamat Abdelkader alias Babalade est finalement fixé sur son sort. Poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, la cour d'appel de N'Djamena le condamne à 8 ans de prison. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
La cour d'appel de N'Djamena estime que les faits reprochés à Babalade, entre autres enroulement d'enfants, violences sexuelles, viols, assassinats, traitements inhumains dégradants, n'entrent pas dans le champ d'application de faits amnistiés par l'ordonnance 19 signée du président Déby, portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'État. Le président de la cour d'appel de N'Djamena, Yena Timbouté, le condamne à 8 ans d'emprisonnement ferme, alors que le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Taouga Bruno, a requis 20 ans d'emprisonnement ferme pour des faits lui reprocher. Colère de Maître Alain Kagome, l'un des avocats de Babalade.
Le président de la République va nous départager avec la Cour. Est-ce que c'est le chef de l'État, président du Tchad, qui a signé l'amnistie ou non? Quels sont les rebelles qui sont éligibles dans cette amnistie-là? L'attitude de la Cour, c'est une rébellion contre la décision du chef de l'État qui décide finalement.
En attendant de saisir le président de la République, les avocats de la défense entendent introduire le plus tôt que possible le pourvoir en cassation devant la Cour suprême pour que le droit soit dit dans cette affaire qu'il qualifie de politico-juridique. Le représentant du ministère public, Taouga Bruno, qui n'a produit aucune preuve des infractions commises par Babalade à l'audience contradictoire, se dit satisfait de ce verdict. André Koduma Dingar Ndiamena, VO Afrique.
Les bailleurs de fonds du G5 Sahel ont dépassé les attentes ce jeudi à Nouakchott en promettant des aides de 2,4 milliards d'euros pour une quarantaine de projets de développement axés sur la lutte contre le djihadisme. Cette somme correspond à 127% de l'objectif de mobilisation initiale, précise le communiqué final publié dans la soirée à l'issue d'une conférence des donateurs dans la capitale mauritanienne. Ces engagements couvrent largement les besoins du programme d'investissement prioritaire, a commenté devant la presse le Nigérien Mamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel. Avant cette conférence, le G5 avait estimé à 1,9 milliard d'euros les fonds nécessaires pour financer le PIP jusqu'à 2021, qui vise en particulier les régions frontalières. Il s'agit notamment de construire des écoles, des centres de soins et d'offrir un accès à l'eau, ce qui permettrait de fidéliser les populations déshéritées susceptibles de céder aux sirènes djihadistes. Deux hauts responsables de l'armée somalienne et 5 soldats ont été tués ce jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi près de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les Chebab. Les généraux Omar, Adan, Hassan et Abdi Ali Jamame étaient les plus hauts responsables militaires de la région de Basse Chabel où l'armée combat les islamistes affiliés à Al-Qaïda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Consultation sous haute tension ce jeudi en Suède entre le gouvernement et les rebelles du Yémen, sous l'égide de l'ONU. Son médiateur a salué une opportunité unique de ramener les belligérants sur le chemin de la paix. Le point avec Jacques Aristide.
Pour le médiateur, le Britannique Martin Griffiths, ces pourparlers sont d'abord destinés à construire la confiance et réduire la violence sur le terrain. Je ne veux pas me montrer trop optimiste, mais je veux être très ambitieux, dit-il. Les discussions ont lieu à Rimbo, localité rurale au nord de Stockholm, où les délégations yéménites sont réunies autour d'une même table pour la première fois depuis plus de 2 ans. Mais peu avant le coup d'envoi, gouvernement et rebelles, qui ne devraient pas se parler directement, ont posé séparément des préalables. Le gouvernement exige le retrait intégral des rebelles de Hodeïda. De leur côté, les rebelles menacent d'empêcher les avions de l'ONU d'utiliser l'aéroport de la capitale, Sanaa, si les pourparlers n'aboutissent pas à la reprise du trafic aérien civil. Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est dévasté par le conflit armé qui oppose depuis 2014 le gouvernement, soutenu par l'Arabie Saoudite, aux rebelles Houthis, appuyés par l'Iran. Les hostilités ont fait au moins 10 000 morts et poussé 14 millions de personnes au bord de la famine.
Le 41e président des États-Unis, George Bush père, a été inhumé ce jeudi aux côtés de son épouse Barbara, décédée 8 mois plus tôt, et de leur fille décédée en bas âge. Dans la matinée, ses proches se sont réunis pour une ultime cérémonie à l'église épicospalienne de Saint-Martin à Houston, que la famille Bush fréquente depuis des décennies. La préfecture de police de Paris a appelé les commerçants des Champs-Élysées à fermer leurs portes et à protéger leurs boutiques au cours de la 4e grande journée de manifestation des Gilets jaunes samedi. L'Élysée redoute une très grande violence samedi et les services de renseignement ont fait passer tous les voyants au rouge. D'autre part, la rencontre entre le Nîmes Olympique et le FC Nantes, prévue samedi soir, a été reportée à la demande de la préfecture du Gard. Il s'agit du 6e report annoncé pour ce week-end par la Ligue professionnelle de football français. et le vice. Il s'agit d'un film biographique consacré à l'ascension politique de l'ancien vice-président américain Dick Cheney. Il a récolté ce jeudi le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes. Sélectionné à 6 reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney devance de peu A Star Is Born, drame romantique qui décroche 5 nominations. Et donc, Kong à New York, les bourses mondiales, déjà en petite forme, se sont alarmées jeudi de l'arrestation d'une responsable du groupe chinois Huawei à la demande de Washington. Une décision judiciaire pouvant remettre en cause la récente trêve commerciale sino-américaine. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, lâchait 1,93% vers 18h20. Quant au Nasdaq, il abandonnait de son côté 0,81% et le S&P 500 1,69%, à savoir que les places européennes ont tout clôturé également dans le rouge. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Cameroun, l'accélération des investissements par les raffineurs fait exploser la demande d'huile de palme à plus d'1 million de tonnes sur une offre locale de 300 000 tonnes par an. Les producteurs des huiles raffinées, savons de ménage et de toilette, ainsi que autres oléagineux, ont accéléré les investissements dans la filière qui culmine à 630 milliards de francs CFA pour 60 000 emplois. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao a vendu 200 000 tonnes de cacao supplémentaires en 2018-2019, rapporte Bloomberg. Les ports ivoiriens ont reçu 676 509 tonnes de cacao entre octobre et décembre, contre 504 000 tonnes un an plus tôt. Les prévisions récentes tablent sur 1,7 million de tonnes de cacao pour la campagne actuelle. Ce bilan dépendra de l'intensité de l'harmattan qui sévit habituellement dans les zones de production de novembre à février. Terminons avec l'Arabie Saoudite qui a plaidé pour une baisse de production d'1 million de barils de pétrole par jour. Mais ce niveau, inférieur aux attentes des marchés, a provoqué une nouvelle chute des cours à la mi-journée au cours des échanges européens. Le baril de Brent est même passé sous les 60 dollars. La plupart des pays de l'OPEP visent un prix du brut compris entre 60 et 70 dollars.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors on connaît les affiches des 16e de finale en Ligue africaine des champions.
Oui, 30 équipes sont en liste, exemptées de tours préliminaires de grosses formations font leur entrée dans la compétition. Le Wydad Casablanca fera face au Jaraf Dakar. Mission compliquée pour les Éthiopiens de Djima Abba Djifar devant les Égyptiens d'Al Ahly, finalistes malheureux de la dernière édition. Le TP Mazembe jouera contre les Zambiens de Zesco United et Vita Club contre Bantou du Lesotho. Au programme aussi, un derby nord-africain entre la JS Saoura et l'Etihad Tanger ainsi que le choc ouest-africain entre le Stade Malien et l'ASEC Mimosa. Les vainqueurs de cette double confrontation accéderont à la phase de groupe, tandis que les perdants seront reversés en barrage de la Coupe de la Confédération. Les matchs allés se joueront en fin de semaine prochaine.
Les oppositions des 16e sont aussi connues en Coupe CAF.
Tenant du titre depuis dimanche dernier, le Raja Casablanca affrontera les Gabonais du Cercle Mbéry Sportif. De son côté, l'Étoile du Sahel défiera le Stade d'Abidjan. Dans une des affiches de ce tour, avec aussi Assania Agadir, Génération Foot du Sénégal, les matchs DC Motoma Pembe, FC San Pedro, Zamalek, AS Coton Tchad et l'USM Bellabès et Nougui Rangers vaudront également le détour. Les 16 qualifiés rejoindront les barrages où ils affronteront les réservés de la Ligue des Champions pour une place en phase de groupe.
NBA, championnat de basket nord-américain, Curry a écœuré Cleveland la nuit dernière.
Et oui, beaucoup attendu, les retrouvailles entre Cleveland et Golden State, adversaires des quatre dernières finales NBA, ont viré à la démonstration des Warriors. Sans LeBron James, recruté l'été dernier par les Lakers, Cleveland s'est enfoncé dans les profondeurs de la conférence Est. Les Cavaliers ont tenu le choc pendant deux périodes et demie avant de laisser filer les doubles champions en titre. Stephen Curry a livré son deuxième match le plus prolifique de la saison après les 51 points marqués fin octobre contre Washington. Il a fini la rencontre avec un 9 sur 14 pour les tirs à 3 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya veut désarmer les groupes indépendantistes en zone anglophone, de même que les ex-combattants de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Pour ce faire, un comité national chargé de désarmer, démobiliser et réintégrer, notamment les milices sécessionnistes, a été créé le 30 novembre par décret présidentiel. Mais certains Camerounais restent sceptiques sur les chances de succès de ce comité, étant donné l'absence de dialogue avec ces groupes. Sur ce sujet, voici un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Les Camerounais originaires des zones anglophones sont pessimistes sur cette question du désarmement des groupes armés dans le nord et le sud-ouest du Cameroun.
Ces gars croient qu'ils vont réussir avec ce genre de stratégie qu'ils ont pris.
Mélanie Gerard est résidente de Woum, une localité où les séparatistes anglophones ont revendiqué l'évasion de 170 prisonniers le 26 septembre dernier.
Si vous voyez le nombre de gars qui sont dans la brousse, sur les routes, qui font les contrôles, qui ont des armes, vous commencez à vous demander comment est-ce que on peut vraiment convaincre tous ces garçons-là.
Certains Camerounais anglophones critiquent aussi la démarche du gouvernement.
On crée une commission de désarmement en pleine guerre. Ça n'a pas de sens.
Aya Abiné est responsable d'une fondation qui assiste les déplacés internes et les réfugiés camerounais au Nigeria suite à la crise anglophone.
L'idéal serait d'appeler à un cessez-le-feu et après on procède à désarmer tous ceux qui sont armés des deux côtés. Le gouvernement ne veut pas résoudre la crise.
Pourtant, le 6 novembre dernier, lors de sa prestation de serment, Paul Biya n'a pas caché son intention de ramener la paix en zone anglophone, mais à une condition.
Déposer les armes et retrouver le droit chemin. J'en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain.
Cet appel du président, matérialisé par la création d'un comité de désarmement, fait entorse au dialogue tant souhaité selon des observateurs. Cyril Roland de Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Le président lui-même, il aurait pu prendre plutôt des mesures dans le sens d'appeler les acteurs autour d'une table. C'est ce qui est quand même demandé depuis des années. On ne comprend pas pourquoi il s'entête à aller dans un sens qui est très peu compris.
Le Cameroun est à la recherche d'une solution originale de sortie de crise anglophone. À cet effet, le programme de désarmement est porteur d'espoir.
Il ne s'agit pas d'un DDR classique.
Raoul Sumutayo est enseignant à l'université de Yaoundé 1 et spécialiste des questions de sécurité.
Il s'agit de mettre en place quelque chose qui relève du sur-mesure, un ensemble de mesures qui vont conduire au désembrigadement relationnel, psychologique, mais également à la sortie de la violence. Il faudrait également que la volonté politique soit là.
Ce sont les villes de Bamenda et Buya qui ont été choisies comme site de cantonnement des groupes armés en région anglophone qui vont accepter de déposer les armes. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le Togo est à 2 semaines des législatives, la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO recommande aux autorités de revoir le calendrier électoral. Aminata Tungara estime que précipiter les élections pourrait remettre en cause la paix sociale et la stabilité de la sous-région. Pour une réaction, Morgane Guiriec a joint Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative au Togo.
Je pense que la CDR ne veut pas se limiter seulement aux recommandations. Il faut une pression forte sur le gouvernement en place parce que la feuille de route a été une décision prise par les chefs d'État. Lorsque le gouvernement en place se soustrait de ses engagements et fait ce qu'il veut, il revient à la CDAO de taper du poing sur la table. Mais visiblement là, la CDAO a des réactions légères qui frisent un peu la complicité. Il faut rappeler le régime à l'ordre, mais il faut un rappel ferme pour que le régime puisse revenir aux fondamentaux de la feuille de route.
Mais le gouvernement dit respecter cette feuille de route.
Le gouvernement ne respecte pas la feuille de route, puisque la feuille de route a décliné tout un processus qui doit conduire aux élections du 20 décembre. Le gouvernement togolais aujourd'hui dit oui, la CDAO nous a dit qu'il faut faire les élections le 20 décembre, et puis c'est tout. Or, la CDAO dit qu'il faut faire un processus consensuel, il faut une CENI paritaire, il faut faire un recensement, il faut un fichier électoral. Tout ça, le gouvernement ne l'a pas fait, ou l'a fait à sa manière, et est en train d'avancer dans un processus unilatéral qui ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ce processus va créer des tensions.
Face à ces recommandations de la CDAO, comment réagit le gouvernement?
Le gouvernement continue dans sa fuite en avant. Non seulement ils ont refusé un processus électoral inclusif, ils ont rejeté aussi le test de l'expert que la CDAO a envoyé au Togo pour proposer une nouvelle forme de constitution.
Mais quand même, la CDAO demande aux autorités de revoir leur calendrier électoral. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'elle fasse de plus?
Il faut que cette demande soit une demande ferme. Ça ne peut pas être une recommandation à la légère, parce que la feuille de route, c'est quand même une conclusion d'une réunion des chefs d'État. Sur le plan politique, elle n'est pas capable de régler les problèmes qui se posent dans un pays, et surtout dans un petit pays comme le Togo, où l'alternance peine à intervenir depuis 50 ans. Je pense que c'est lamentable pour une institution comme la CDAO.
Mais le scrutin, il est prévu dans très peu de temps. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière?
Mais il n'est jamais trop tard pour faire machine arrière quand on voit bien qu'on va dans le mur. Et il ne sert à rien demain d'organiser des élections au Togo qui vont déboucher également sur des morts. Cette élection ne va rien régler dans la crise togolaise. Il n'y aura que juste un report de la crise togolaise qui va nous rattraper plus tard.
Ferdinand Haïté est directeur de publication du journal L'Alternative au Togo et nous avons joint les autorités togolaises qui n'ont pas souhaité réagir aux propos d'Aminata Tungara. Campagne électorale en République démocratique du Congo. Le jet privé de Martin Fayulu a atterri à l'aéroport de Beni dans l'est du pays en fin d'après-midi. Le candidat de la coalition Lamuka de l'opposition a choisi cette ville du Nord Kivu pour commencer sa campagne. Il en a expliqué les raisons à Anastasie Tudiech, à qui il a accordé un entretien. On l'écoute.
Okay. Martin Fayulu en est convaincu, il est porteur des solutions qui redresseront le Congo. Et il tire sa légitimité, notamment de son parcours.
Je suis d'abord un homme d'entreprise, c'est-à-dire un haut cadre d'entreprise qui a fait ses preuves. Et j'ai été mobile, devenu ExxonMobil. Et je suis rentré, j'ai investi dans le business pour me permettre de vivre décemment et de faire de la politique sans être corrompu. Parce que l'intégrité, pour moi, c'est une valeur cardinale sur laquelle on ne peut pas transiger.
Et s'il était élu, quelle serait la première action des 100 premiers jours du candidat de la coalition Lamuka?
On doit décréter une urgence agricole. Donc, en 100 jours, les 100 premiers jours, les choses seront mises en place pour commencer des cultures, des maïs, par exemple. Lutter contre la faim, c'est la clé. Arrêter la corruption, c'est la clé. Voilà, et l'éducation. C'est quatre priorités pour nous, pour lancer le vaste programme que nous avons sur les infrastructures.
Autre caractéristique de M. Fayulu, qui selon certains analystes lui coûte des voix, différents sondages le placent derrière M. Tshisekedi et Shadari, son appel au vote sans utiliser la machine à voter. Que fera-t-il le 23 décembre?
Je vais voter avec le bulletin papier, mais les citoyens congolais me le disent clairement. Il ne faut pas toucher à cette machine parce que c'est la tricherie.
Quant au choix de Beni pour commencer sa campagne,
c'est un symbole important, Beni. Mes frères et sœurs de Beni ont souffert et continuent de souffrir.
Après Beni, les supporters de Martin Fayoulou l'attendent à Boutembo. À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tudiesh.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Faire des études pour sortir de prison, c'est ce sur quoi misent certains détenus sur le continent. Et sachez qu'un projet permet déjà à d'anciens détenus de se transformer en juristes. C'est notamment le cas au Kenya et en Ouganda. Grâce à ce projet, des centaines de prisonniers ont recouvré la liberté dans ces deux pays. Des précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Centre de détention de Kamiti au Kenya. Ici, les prisonniers sont pour la plupart analphabètes, mais surtout pauvres. Ils disposent donc de peu de moyens pour engager un avocat pour les défendre devant les tribunaux ou réclamer le respect de leurs droits humains. C'est ainsi qu'Alexander McLean, alors étudiant en droit dans une université britannique, décide de mettre en place le projet prison africaine après avoir été bénévole dans des prisons en Ouganda. Amissi Mzari, juriste, est l'un des formateurs de la prison de Kamiti.
Ce sont des gens n'ayant pas eu accès à la justice à cause de leurs antécédents. Ils viennent de familles qui ne pouvaient pas les envoyer à l'école pour suivre une éducation formelle et comprendre les implications d'une vie honnête où leur famille pauvre était incapable de leur prendre un avocat. Donc, l'organisation vient donner à ces prisonniers les moyens d'accéder à la justice et de prendre en main leur destin.
L'expérience peut transformer les détenus et même la façon dont ils sont traités. Georges Karaba, 45 ans, avait été inculpé de meurtre et condamné à mort. Il était désespéré. À présent, il demande une grâce présidentielle et est devenu un administrateur avec un rôle de premier plan parmi ses pairs ici à la prison de Kamiti.
Une fois que j'ai été condamné à mort, nous avions perdu espoir. C'était fini pour nous, particulièrement à cette époque où ils menaçaient toujours d'exécuter les personnes qui avaient fait appel. Donc, nous étions vraiment perdus et nous n'avions nulle part où aller. Rien à faire pour arranger notre vie. Nous attendions que le mandat soit signé quand le projet prison africain est arrivé.
Maurice Kaberia se trouvait dans le couloir des condamnés à mort et avait perdu tout espoir lorsqu'il a découvert ce programme. L'ancien policier avait été emprisonné pour vol avec violence et il avait clamé son innocence et dit être victime de montage sans succès. En septembre, l'homme de 47 ans a été libéré après s'être présenté devant un tribunal. Il poursuit actuellement des études en droit à l'Université de Londres.
Rejoindre ce programme m'a redonné vie. J'ai su qu'il était possible de penser plus grand, que les murs ne devaient pas me limiter.
Entre janvier et octobre 2018, 800 prisonniers ont été libérés selon le projet des prisons africaines.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la console, Justin Twets. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact comme d'habitude. Rendez-vous également sur notre site internet et sur Facebook. Le site internet, c'est voaafrique.com pour l'actualité en continu. Une excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord